Bonjour et bienvenue à tous sur ce premier podcast de Paulo Grobel dédié à un sujet qui me parle vraiment et qui est au cœur de mon expérience himalayenne. Pour planter le décor de cette conversation sur l'altitude et l'acclimatation, je voudrais d'abord partager avec vous six histoires d'alpinistes, alors parmi tant d'autres, et qui m'ont particulièrement marqué et surtout fait évoluer. Je suis donc guide de haute montagne, je suis un vieux guide, j'ai 68 ans et j'accompagne des groupes au Népal depuis plus de 30 ans, avec ces dernières années 4 ou 5 expés par an sur des petits ou des grands sommets. Alors à l'exclusion de l'Everest qui vraiment ne m'intéresse pas du tout. Alors la première histoire se passe au Neujing Kangsang, c'est un 7000 au Tibet et ça se passe en 2006, il y a presque 15 ans. Il a fait mauvais au Tibet en ce début d'automne, les éclaircies sont à la fois rares et courtes, et progresser en altitude est un vrai casse-tête. Et pourtant, à notre grande surprise, nous avons atteint le sommet presque facilement, en progressant de manière continue et en doublant le nombre de camps pour profiter des rares accalmies. C'était la première expérience d'une progression continue, et cette expédition au Neujing m'a fait basculer dans un autre monde. Et c'est vraiment ça. Elle m'a obligé à repenser mon accompagnement en haute altitude, en me montrant qu'il était possible de vivre en altitude, entre 6000 et 7000 mètres, et d'y séjourner pour une durée importante, sans forcément souffrir, ni rencontrer de difficultés particulières. La manière de progresser semblait un facteur déterminant. Alors si cette analyse paraît évidente pour moi aujourd'hui, elle n'en demeurait pas moins à contre-courant de la plupart des expéditions en Himalaya organisées sur le mode de l'incursion. Alors ce mot d'incursion, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire vite en haut, vite en bas, pour ne surtout pas séjourner en altitude. Et pendant plus de 15 ans, c'était évidemment comme ça que j'avais auparavant mené toutes mes ascensions. Alors puis, en 2007, ce fut le Sichapangma. Alors c'est sans ox, sans corps fixe, ni porteur d'altitude. Et ça a confirmé plusieurs idées. Il est possible de vivre longtemps en haute altitude, même pour l'ascension d'un 8000. Et ce séjour en altitude est source de plaisir, sans problème de même particulier. À condition de faire des efforts calibrés et limités pour faciliter l'acclimatation. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas faire trop d'efforts dans la journée, environ 4 à 6 heures d'efforts. Le reste du temps est consacré à la récupération. En dénivelé, ça représente entre 500 et 800 mètres de montée, mais pas plus. Et le poids du sac à dos est limité, est calibré, mais surtout il est contrôlé. C'est environ 12 et 15 kilos, puis après en altitude 10 kilos. Et ça, c'est le début de l'utilisation systématique d'un peson au camp de base, mais aussi à tous les camps d'altitude et durant l'ascension. Alors, ce fut vraiment une très belle expé et tous mes compagnons ont atteint le sommet, sauf le guide. Mais alors, qu'en est-il aujourd'hui de cette réflexion sur la progression continue et la philosophie de la slow expédition? Waouh, c'est un peu difficile à dire et c'est pas si facile que ça. Et puis surtout, que va-t-il se passer quand la majorité des ascensions vont être encadrées uniquement par des Népalais? Donc voilà, à suivre. La deuxième histoire, nous sommes maintenant en route pour le Manaslu, et c'est au printemps 2009, exactement à Bimthang. Alors Bimthang, c'est un grand replat juste avant le col du Larkier. Et lorsque nous faisons un tour de table avec l'ensemble des participants, sur notre état physique, 8 personnes sur 10 sont en souffrance. Certains ont des problèmes gastriques, d'autres ont mal à la tête, l'un est tombé d'un banc et s'est froissé les côtes, et puis le dernier, il n'a pas pris ses médicaments avec lui alors qu'il souffre des cervicales après une chute à moto avant son départ. Ce qui veut dire que 80% des alpinistes de mon groupe, qui pourtant vivent un 8000, et ce qui n'est quand même pas rien, sont HS après seulement une semaine de trek. Il y a vraiment quelque chose qui cloche là-dedans. Avec une conclusion immédiate, l'acclimatation ne se construit pas à partir du camp de base, mais bien avant, durant tout le trek. Et même dès le départ à Katmandou, et peut-être même en France. Ça semble tellement évident, mais en fait, j'en avais jamais entendu parler auparavant. Au camp 3 de Limnung, nous sommes maintenant en 2015. Nous avons bien changé quand même. La progression continue et la slow attitude, qui a été popularisée par le film de François Damilano, alors vous vous souvenez peut-être de la stratégie de l'escargot, sont bien ancrées dans ma pratique de guide. En fait, au point où je peux plus faire autrement. Et là, durant la marche d'approche, avec des messages réguliers, construisent notre progression. Nous voici à 6350 mètres au camp 3. C'est le dernier camp avant le sommet. Et tout le monde est au rendez-vous. Et demain, nous partons pour le sommet. Avec François Desilles, qui est aussi médecin, tous les soirs, c'est la tournée des popotes. Alors c'est un nom un petit peu particulier, mais c'est un briefing qui actuellement est systématique pour moi à partir du camp de base, et qui est même pris en charge à tour de rôle entre les guides népalais et moi. Alors c'est l'un des checks qui structure notre progression et s'est mis en place au fil des années avec des briefings structurés et ces checks. Alors comment ça fonctionne ? Eh ben, c'est une mise en place un peu rigide au fur et à mesure du chemin. Par contre, je ne sais pas comment transmettre ça aux Népalais, et à cause du gap culturel, à cause de la langue, et pourtant ils vont bientôt me remplacer. Et je ne sais pas non plus comment s'organisent mes collègues guides français. Bon, en fait, on n'est vraiment pas très nombreux, et le sujet est... Ouais, on n'en parle pas, quoi. Alors, une autre petite histoire. Nous sommes à l'automne 2017, au camp de base du Mukotimal, versant Hayden Valley. La Hayden Valley, vous vous souvenez, c'est là où sont passés les Français de la première expédition avec Herzog sur les Annapurna. Alors, nous sommes au camp de base, un nouveau camp de base, et c'est une discussion après le petit déjeuner pour organiser concrètement la traversée du sommet, donc le Mukotimal. Alors, nous allons partir ce matin pour dormir au col avec quelques guides népalais et l'équipe de cuisine, elle traversera directement demain en nous récupérant au passage. Alors, tout le monde est hyper motivé, chaud la braise pour cette aventure exploratoire. C'est la première traversée d'un col glaciaire et l'ascension d'un 6000 pour entrer au Dolpo avec, derrière, un autre voyage. Mais Philippe, l'un des participants, n'est pas bien depuis au moins 3 jours. Hier, il est resté au camp de base à se reposer pendant que d'autres allaient au French Pass. Et moi, j'allais au Mukot Pass avec les Népalais pour faire la trace et puis pour poser les tentes. Et avec son épouse, eux aussi, ils rêvent de faire un 6000 et d'aller au Dolpo. Mais en plus, ils sont tous deux médecins. Et le groupe est composé majoritairement de personnes de la fonction médicale. Alors avant de partir, ce matin-là, nous discutons longuement et de manière sereine de la stratégie à adopter et nous décidons d'un commun accord de laisser Philippe se reposer un jour de plus et de nous rejoindre le lendemain avec l'équipe de cuisine pour traverser tous ensemble. Voilà, ça semble pertinent. Ce jour-là, après avoir dormi au col, nous avons prévu d'aller au sommet en aller-retour, avec donc un rendez-vous au col au camp du col, à quasi 6000 mètres. Et puis, à la fin de la réunion, Michel, qui lui aussi est médecin, me glisse discrètement. Tu sais, Polo, je pense que c'est pas une bonne décision. Et puis, il s'en va, il va préparer son sac, et nous voilà partis dans la foulée, tous vers le haut, en laissant Philippe et sa compagne avec Bissal. Et la suite est caricaturale, et heureusement, Elle se terminera plutôt bien. Alors bien évidemment, l'état physique de Philippe ne s'arrange pas dans la journée. C'est bien évident. Et après une nuit de plus en altitude, il faut redescendre d'urgence. Alors Bissal et quelques porteurs prennent en charge la descente à pied vers Marfa et ils sont obligés de retraverser le Damfous Pass. Ouais, ça va pas être vraiment très simple pour eux. Et la question principale, c'est comment un groupe avec une telle concentration d'expérience, autant médicale qu'himalayenne, a-t-il pu valider, cautionner une telle décision aussi aberrante ? Et moi le premier ? Alors ça me rappelle étrangement le premier livre de Christian Morel, Les décisions absurdes. Et alors, simplement parce que l'envie de traverser était la plus forte et que nos mules, avec notre matériel pour la suite du voyage, nous attendaient de l'autre côté. C'est vraiment complètement absurde. Et encore un coup de ce PFH. Alors ça, c'est une blague avec Dominique, c'est ce putain de facteur humain. Et alors, nous voici à l'automne 2019. Après l'ascension du Lagula, c'est un presque 7000 entre Fou et le Mustang. C'est un super sommet. Alors, malgré le mauvais temps persistant, notre expé est une réussite. Quasi tout le monde va réussir le sommet par un nouvel itinéraire situé au Tibet. Situé en Chine. Et le cadre est vraiment somptueux. Mais à la descente, à la descente du sommet, donc on a réussi le sommet, on est un petit groupe, alors que nous sommes désencordés, Philippe s'en mêle les crampons et glisse dans la pente, et en plus, il saute une rimée, la seule dans une grande pente. Alors, heureusement, il se relève indemne, et c'était simplement un presque accident. Mais pour une fois, il va donner lieu à un véritable retour d'expérience. Car j'en ai marre de l'omerta qui règne en Himalaya sur tous les accidents qui adviennent, petits ou grands, mais avec souvent des morts à la clé. Alors le dernier qui m'a vraiment bousculé l'année passée, c'est la mort d'un kitchen boy sur un itinéraire de trek, que je connais bien, c'est le chaînon manquant au Mustang depuis les lacs du Damodar. Et surtout avec Laurent, qui est un accompagnateur français pourtant très expérimenté. Et personne n'en a parlé. Ouais, quel gâchis d'expérience et quel gâchis de connaissances. Alors, je souhaite aussi augmenter la fiabilité de mes prises de décision avec mes clients et surtout former l'équipe des guides népalais. Et les conclusions de ce rétex avec Philippe, là, c'est le Flying Philippe, sont édifiantes. C'est une accumulation de non-communication. Encore ce PFH. Et comme mesure corrective, donc ça c'est, on est dans la logique des rétex, comme mesure corrective, c'est l'instauration d'un briefing avant l'ascension et surtout un check depuis le sommet, avec des questions bien précises à prendre en compte. Et la logique ici, elle est de bien comprendre quel est le niveau de fatigue des différentes personnes. Alors ce premier texte qu'on a écrit avec tous les participants, c'est un peu le premier du genre, et il est en ligne sur mon site web, et il est surtout bien visible par tous mes compagnons de cordée et de voyage. Et alors maintenant, il me reste à l'utiliser avec les Népalais. Alors nous voici en janvier 2020 pour la dernière petite histoire. Nous sommes à Chamonix et avec mes voyageurs du Manaslu, car nous allons partir au printemps pour l'ascension du Manaslu que je connais plutôt bien. Alors je participe avec eux à une formation sur l'altitude et l'acclimatation avec Cliff Raymond. Alors j'aime bien ça, car j'apprends toujours des trucs, et c'est jamais inutile de réécouter même des choses qu'on sait. Mais je suis resté sidéré par le contenu uniquement physio de l'exposé. Alors bien sûr, c'est normal, parce que c'était Pascal qui le faisait et qui est médecin, mais quand même. Alors, c'était super intéressant, j'ai bien aimé, mais au final, on en fait quoi ? Qu'est-ce qu'on peut retenir, qu'est-ce que nous allons en retenir et qu'est-ce que je vais en retenir? En fait, on se croiserait il y a 30 ans, au début de la réflexion sur la neige et les avalanches. Vous vous souvenez quand on pensait qu'il suffisait de mieux comprendre la neige et ses caractéristiques physiques et mécaniques pour éviter de mourir dans une avalanche? Ouais, je me rappelle, je faisais même des diaporamas sur ce sujet-là. Voilà. Et en plus, c'était avant Munter. Vraiment la préhistoire. Et alors, en conclusion, je crois vraiment que ce domaine de l'environnement hypoxique, de la haute altitude et de l'acclimatation, aurait tout intérêt à s'inspirer de la réflexion actuelle sur les prises de décision en situations névrologiques complexes. Surtout pour construire un cadre structuré, une forme de matrice organisationnelle. En névrologie, c'est un peu le 3x3 ou le 3x4. Et avec des briefings, des checklists, des rétex, une prise en compte des facteurs humains et des biais décisionnels, mais bien sûr en intégrant les avancées des neurosciences et de la physio, et puis sans oublier les débriefings, et le faire ensemble. Ce faire ensemble qui en fait devrait devenir, là pour ce sujet-là, un faire ensemble en expédition. Bref, il y a du boulot, il y a de la réflexion, et ce qui est important, c'est que ça devrait nous permettre d'être encore plus pertinents et encore plus efficaces. Mais par contre, je ne sais pas du tout où vous en êtes sur ce sujet. Alors, Et vous, qu'en pensez-vous? Quel est le sujet qu'il est nécessaire d'aborder et d'approfondir? Alors par exemple, est-ce que c'est comment installer les bonnes pratiques dans le quotidien d'un trek ou d'une expé, avec les briefings on the road, pour construire un espèce de changement, une mutation d'un homo alpinicus en homo himalayus? Est-ce qu'il faut parler de la progression continue ou de la slow attitude en expé? Ou au contraire, est-ce qu'il faut... Ou en plus, il faudrait approfondir la notion de checklist et de retex? Voilà. Eh ben, je vous souhaite une bonne réflexion. Et puis, je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast. À bientôt !